Après 14 ans de loyaux services, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, quitte officiellement son poste à l'âge de 72 ans. Mais la question reste en suspens. Après toute cette destruction de l'univers de Star Wars suite au rachat de Disney, après avoir rendu cette poule aux œufs d'or non rentable, reste-t-il réellement quelque chose à sauver tout ça ? Pas sûr. Mais analysons quand même la situation de façon à vérifier ce qui reste de cette ruine.
J'ai ressenti un grand bouleversement de la Force.
Salut à tous, c'est Vin sur Plottime. Je pense que ça n'a échappé à personne. Depuis 2012, Disney a racheté Lucasfilm au prix fort de 4,05 milliards de dollars pour ressusciter les vieilles franchises endormies comme Star Wars, Indiana Jones et même Willow. Le tout s'est déroulé sous la présidence de Kathleen Kennedy, l'ancienne collaboratrice de George Lucas en personne, et les trois franchises que je viens de citer sont toutes mortes sous cette même présidence. Ça, c'est de la carrière, hein. Oh, je ne parle pas de critiques personnelles, je parle bien des recettes financières. En dehors de la période de diffusion de la post-logie, ainsi des quelques spin-offs qui l'ont accompagné comme Rogue One, Lucasfilm a très vite vu son soufflet retomber au fur et à mesure des années, jusqu'à la mort totale de ces titres légendaires. Aujourd'hui, Kathleen Kennedy est partie à la retraite, mais est-ce finalement une bonne nouvelle ? Qu'est-ce que ça implique exactement ? Une renaissance de Star Wars ? Si c'est le cas, eh bien, qu'est-ce qu'on fait des films et des séries déjà existants qui désacralisent de fond en comble l'univers de George Lucas au point d'avoir décanonisé l'ancien univers étendu, considéré aujourd'hui comme légende. Vous l'avez compris, il y a un paquet de choses à analyser et vu le temps que ça me prend de mettre au fourneau, je vous invite bien sûr à liker cette vidéo en masse de sorte à, vous savez, émoustiller l'algorithme de YouTube qui est si méchant avec moi en ce moment. Et donner votre avis dans les commentaires de ce que vous pensez réellement de ce qu'est devenu Star Wars, genre ça peut réellement redécoller un jour ? Compliqué, hein ? Mon analyse s'annonce donc copieuse, mais attention, figurez-vous qu'il est tout à fait possible qu'on vous analyse déjà sans que vous ne le sachiez. Et je profite de tout ça pour vous avertir qu'aujourd'hui, une énorme quantité de données personnelles circulent en ligne sans qu'on ne le sache vraiment. Adresse, numéro de téléphone, email, parfois même des infos sur nos proches. Tout ceci est collecté et revendu par ce qu'on appelle des courtiers en données. Le problème, c'est que demander la suppression de ces infos à la main, site par site, est extrêmement long et souvent inefficace, parce que les données finissent par y apparaître. C'est pour ça que je voulais vous parler d'Inconi qui m'a à nouveau proposé de collaborer avec moi dans cette vidéo. Inconi s'occupe automatiquement d'identifier où vos données sont exposées et d'envoyer, en votre nom, des demandes de suppression à des centaines de courtiers en données connues. Et ils refont ces demandes régulièrement pour éviter que ces infos reviennent. Concrètement, l'inscription se fait en trois étapes simples. Premièrement, vous créez votre compte. Deuxièmement, vous donnez l'autorisation légale. Et troisièmement, Inconi gère tout pour vous et vous n'avez plus rien d'autre à faire. Il y a aussi une fonctionnalité très intéressante appelée les suppressions personnalisées. Par exemple, si vous tombez sur un site précis où vos infos apparaissent, vous leur envoyez simplement le lien et un expert Inconi s'en charge. C'est une solution sérieuse, vérifiée de manière indépendante, et vous avez 30 jours garantis satisfaits ou remboursés si vous souhaitez tester sans risque. Étant donné que le sujet autour de la protection des données concerne tout le monde, je vous invite à jeter un petit coup d'œil à mon lien en description et un commentaire épinglé, inconi.com/plottime, en utilisant mon code PLOTTIME pour bénéficier de 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Dans cette vidéo, j'ai décidé de ne pas m'attarder sur les licences comme Indiana Jones ou encore Willow. Car dans la continuité de la descente aux enfers dont Disney a souffert, ces dernières licences ont prouté avant même d'avoir eu le temps d'être rentabilisées en plusieurs volets, au point de voir carrément Willow disparaître totalement de la plateforme officielle Disney+. Et autant dire que dans cette vidéo, l'addition sera salée. Non, je pense qu'il est plus important de se concentrer sur Star Wars, qui fut l'un des facteurs clés de cette chute. Si on fait un peu le point, nous observons ce qu'on appelle la post-logie Star Wars, autrement dit les épisodes 7, 8 et 9 dans la continuité directe de la trilogie originale, sortie en 1977. Bien que les conflits internes entre producteurs, acteurs, scénaristes et réalisateurs furent une véritable bombe à retardement pour la suite de l'histoire, le box-office répondait malgré tout. Et une grande partie de la fanbase était toujours au rendez-vous pour accueillir des spin-offs comme Rogue One. Puis il y a eu Solo. Et là, mesdames et messieurs, c'est le drame. Alors je me rends compte que je ne vous ai jamais parlé de ce film en détail, mais figurez-vous que cette même production s'est avérée un véritable point de bascule pour la firme. C'est la première fois que Disney faisait face à un échec bien gras, et c'est la première fois que Kathleen Kennedy s'est rendu compte que Star Wars n'était pas un distributeur à billets automatiques. Même en abusant du fan service qui ne propose rien de nouveau derrière, tu ne pourras pas obtenir l'approbation du public. Rogue One en est un excellent exemple. Même en nous envoyant du fan service à tout va, il propose une poignée de choses qu'on n'avait encore jamais vues dans l'univers, en termes de réalisation et de maturité, qui a débouché à l'étonnante série Andor, qui reste à ce jour l'ovni de la franchise. Solo n'a rapporté que 392 millions de dollars au box-office mondial pour un budget monstrueux de 275 millions, soit le premier film de la franchise Star Wars depuis 1977 à n'avoir jamais dépassé les 400 millions, malgré l'inflation astronomique entre toutes ces dates. Donc, eh bien, voilà. Voilà. Les producteurs se sont tout d'un coup sentis comme des cons, à ne pas trop savoir quoi faire pour rentabiliser leur précieuse vache à lait. Alors il fallait passer au plan B, Disney+. Pour comprendre comment a fonctionné Lucasfilm sous la présidence de Kathleen Kennedy, il suffit de vous imaginer un zombie. Tel un zombie qui comprend qu'il n'y a plus de chair fraîche à manger quelque part, Disney s'est tourné vers le média qui semblait le plus opérationnel, celui des séries sur Disney+. Obi-Wan ne sera donc plus un film comme Solo, mais bien une série. Au lieu de comprendre pourquoi Solo n'a pas marché, ils vont se contenter de faire exactement la même chose. Tout pareil, on va faire la même chose, mais en moins cher, en moins ambitieux, en moins bien réalisé, et en misant désespérément sur le fanservice. Et quand je parle de fanservice, évidemment, je ne parle pas de ça. Je parle bien sûr de la volonté de séduire tristement le fan d'origine. Eh, t'as vu, on connaît Star Wars, hein? Parce que c'est comme ça que ça marche, hein? Faut faire ça pour attirer des gens! C'est donc après la surprise qu'était la première saison de The Mandalorian que Disney envoie la purée avec le livre de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor, la pépite dans un océan de merde, si je puis me permettre, Ahsoka, The Acolyte et Skeleton Crew. Je suis le seul à avoir détesté Skeleton Crew et je le vis très bien. Si vous aussi vous n'aimez pas Skeleton Crew, dites-le dans les commentaires. Croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Parlez-en avec votre médecin. Quasiment toutes ces productions en dehors d'Andor ont en commun de ne rien proposer d'original, de ne rien raconter intéressant et de tout miser sur la nostalgie. Surtout, ne changez rien. C'est parfait, c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est sans oublier les séries animées comme The Bad Batch, Star Wars Vision, Tales of the Jedi, Tales of the Empire, Tales of the Underworld, Young Jedi Adventures et Lego Star Wars Reconstruire la Galaxie. Même en jeu vidéo, la sauce ne prenait plus. On pourrait parler du fiasco Star Wars Outlaws. Avec ses tristes alliances d'Ubisoft en pleine phase de déclin, ce n'est pas en alliant quelque chose qui ne marche pas à autre chose qui ne marche pas, que ça changera quoi que ce soit. Rien de tout ceci n'a su redorer le blason de la franchise jusqu'à en arriver à ce triste résultat. Star Wars est devenu de niche. Star Wars ne rapporte plus de thunes. Star Wars est mort. Il est très facile d'en vouloir aux superproductions et de tous les considérer comme des débiles profonds pour ne pas savoir comment gérer leur propre business. Mais la réalité est tout autre. Plus il y a d'enjeux et plus ça devient compliqué de produire un contenu qui plaît à un large public. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à féliciter James Cameron pour sa trilogie Avatar qui parvient à chaque fois à exploser le box-office, y compris à notre époque où le cinéma est au creux de la vague suite à une baisse d'intérêt et bien sûr je vous renvoie à cette vidéo où j'en parle en détail. Mais ce succès a un prix, lisser son scénario au maximum pour attirer la masse et n'offusquer personne. Ouais, c'est exactement pour ça que je n'aime pas Avatar, mais je salue quand même le succès. Dans le cas de Star Wars, il n'y avait d'entrée pas de vision artistique claire. Kathleen Kennedy a dirigé Lucasfilm pendant 14 ans, mais elle ne savait en réalité pas exactement à qui s'adresser lors d'un processus de développement bien plus approfondi que ne l'avait jamais fait George Lucas auparavant. Ensuite, la présidente n'a pas eu le bon goût de confier l'univers étendu tout entier, qu'il soit consacré aux films, aux séries, aux jeux vidéo, aux livres, aux comics et bien d'autres, à une équipe de scénaristes fixe pour garantir une cohérence de construction dans l'univers. Vous avez compté un petit peu le nombre d'incohérences qu'il y a dans la saga depuis le rachat de Disney? Beaucoup, hein. Ouais. À ça s'est ajoutée une politique d'identité féroce lors de l'instauration des quotas imposés par le département DEI de chez Disney, dont je vous ai suffisamment parlé sur ma chaîne. Certaines décisions de casting ou de réalisation ont été motivées par des critères externes plutôt que par le talent, l'expérience ou la vision créative. Le meilleur exemple pour moi reste le cas d'Deborah Chow aux commandes de la réalisation d'Obi-Wan Kenobi, la série la plus attendue, la plus ambitieuse et la plus importante pour la survie de la firme Lucasfilm, si ce n'est une grosse partie des studios Disney. Et les mecs ont confié ça à une réalisatrice de seconde équipe, de façon, vous savez, à équilibrer le ratio homme-femme au sein de l'équipe de tournage, les acteurs principaux étant principalement des hommes. Résultat, la série est éclatée au sol, et ce qui restait des fans ont perdu totalement confiance en la production. Et quand on s'est aperçu que les séries suivantes ne faisaient que devenir de plus en plus gênantes comme The Acolytes, ce qui restait de Star Wars est devenu un gigantesque trou à merde, une énorme décharge créative, une poubelle à quota, transformée en surcharge de mèmes sur internet.
We were on the brink of extinction.
Bien que The Acolyte n'a pas battu le record des mèmes de Bella Ramsey sur The Last of Us. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, qu'attendre exactement de Star Wars aujourd'hui? Parce que... bah, encore une fois, c'est mort, non? Je ne vois vraiment pas comment cette franchise pourrait redevenir le titan qu'elle était. Prochainement, niveau film, on a quoi? J'ai Mandalorian et Grogu prévu pour le 22 mai 2026.
Ouais!
La suite de la série au cinéma, série qui a fini par perdre une partie de son audience depuis sa baisse phénoménale en qualité d'écriture dans la saison 3. Certes, c'était très joli visuellement, mais cette dernière est bien la preuve que le fanservice et une belle forme ne fait pas tout. Nous aurons ensuite Star Wars Starfighter prévu pour le 28 mai 2027. Ah, celui-là m'intéresse un peu, ne serait-ce que pour son casting ou même Sean Levy à la réal. Stranger Things, Deadpool 3, Free Guy, ce n'est pas un grand réalisateur, mais il sait au moins faire de bons divertissements. Mais c'est pareil, est-ce qu'un bon divertissement est suffisant pour redorer le blason de Star Wars? Là, ce qu'il nous faut, c'est quelque chose d'hors du commun. Nous aurons également un autre film réalisé par James Mangold annoncé officiellement. Ce sera apparemment centré sur les origines des Jedi. Et même si James Mangold est quelqu'un de très talentueux, principalement pour son Mans 66 que je recommande fortement, ou même Logan et bien d'autres, son Indiana Jones 5 et La Navrante Destinée, que je n'avais pas du tout aimé, était encore une preuve qu'une mauvaise production derrière pouvait inciter à revoir ses ambitions à la baisse. Côté série, nous avons la saison 2 d'Ahsoka qui arrive, série que je n'avais pas, mais alors pas du tout aimée, décidément, et je vous invite à voir ou revoir ma vidéo sur la saison complète où j'explique tous les problèmes d'écriture de A à Z dans un scénario qui ne fait que du surplace pour ne rien raconter du début à la fin. Ça, plus le cahier des charges made in Kathleen Kennedy qui voulait absolument sa série Girl Power centrée uniquement sur les personnages féminins, forts et indépendants. Ça aussi, j'en parle en détail dans ma vidéo et j'explique à quel point c'est une catastrophe pour le scénario. Étant donné qu'on se retrouve avec une armée clone, sans mauvais jeu de mots, où des personnages féminins parlent, s'expriment et se déplacent exactement de la même manière, avec exactement le même caractère, la même façon de penser, la même façon de se battre, au point d'avoir transformé sauvagement Sabine en Jedi, alors que ça n'avait aucune importance dans l'évolution du personnage. Henry Gilroy lui-même, scénariste de Star Wars Rebels, donc c'est pas n'importe qui, a affirmé qu'il n'avait jamais prévu que Sabine devienne une Jedi. Le scénariste de Star Wars Rebels a dit ça. Je vous jure que c'est vrai. Et ce n'est pas tout. Selon lui, toute l'équipe de scénaristes avait trouvé l'idée mauvaise. Mais que voulez-vous? Les caprices de Kathleen Kennedy à vouloir son petit shot de Charlie's Angels. En vrai, je dis ça comme ça, mais sur le moment, quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment énervé. Je me suis dit, mais on dirait vraiment qu'ils veulent saboter leur propre franchise. C'est incroyable. Côté animé, eh bien, rien de spécial à se mettre sous la dent. Si ce n'est encore du fanservice. Comme Maul, Shadowland, série animée prévue sur Disney+, pour 2026. Star Wars Vision présent. The Knights Jedi, adaptation étendue d'un épisode de Vision, également prévu pour 2026. Ah, et la saison 3 de Star Wars Vision que j'ai décidé d'arrêter après la saison 2. Justement parce que j'en avais un petit peu marre de, vous savez, du girl power. Alors vous allez penser que je suis obsédé avec ça, c'est vrai. Mais c'est surtout une réalité. Depuis le rachat Disney, Kathleen a tout mis en œuvre pour préparer une revanche contre le Star Wars d'avant, jugé trop patriarcal.
So, my character, you know, she's a powerful leader. Yes, yes. In a very woman-centered world, which I was very excited to kind of be in that, because I feel like Star Wars is very like patriarchal, so it was kind of cool to have like this sort of woman-centered figure.
Enough. Si un personnage doit tenir un sabre laser du côté clair de la Force, ce doit être une femme. Et si un homme porte un sabre laser du côté clair de la Force, il doit obligatoirement être épaulé par une femme pour le surveiller. J'imagine. Oh, vous pouvez vérifier, mais dans Star Wars Vision saison 2, ou même Ahsoka, c'est systématique. Les hommes incarnent le mal, le doute, la trahison, le danger, tandis que la femme incarne la solution, la guérison, la bienveillance et surtout l'invincibilité. Pourquoi Sabine est devenue une Jedi? Pour ne pas se faire surpasser par Ezra, qui lui devient totalement obsolète et oubliable en fin de saison. Il devient, vous savez, un genre d'objet qu'on cale sous une porte pour la maintenir ouverte. Voilà la vraie raison et voilà pourquoi personne ne regrettera Kathleen Kennedy qui s'en va à sa véritable place.
Y'a la
cuisine.
Bon, d'autres projets plus incertains sont aussi mentionnés sur la toile. Un film sur Lando Calrissian, un film réalisé par Taika Waititi, un retour du projet Rogue Squadron, une nouvelle trilogie de Simon Kinberg. On parle aussi d'un film ou d'une saga centrée sur Rey 15 ans après l'ascension de Skywalker. Réalisé par Shamin Obed-Chinoy, la réalisatrice de Miss Marvel, ne paniquez pas. Ne paniquez pas, Disney sait exactement ce qu'il fait. Ce qui a mis ce projet au point mort, c'est bien sûr la polémique autour du nom Skywalker, que Rey s'approprie à la fin sans aucune raison apparente.
Rey Skywalker.
Donc, je le redis encore une fois, Star Wars est mort. Même si nous arrivons sur la fin de cette mascarade, j'ai le sentiment que les dégâts ont été bien trop grands pour revenir en arrière. Mais il faut quand même noter les points positifs. Kathleen Kennedy qui quitte enfin Lucasfilm après 14 ans de loyaux services à l'âge de 72 ans, le département DUI qui imposait ses quotas de girl boss au point de détruire toute la structure de l'univers a finalement été mis de côté depuis début 2025. On notera la délicieuse décision de fermer le site Reimagine Tomorrow, un outil dogmatique pour valider les points ESG de la firme. Et nous avons maintenant deux nouveaux dirigeants, Dave Filoni qui supervise le développement créatif, aux côtés de Lywen Bredan qui supervise les fonctions exécutives. Et avant le fiasco Ahsoka ou même The Mandalorian saison 3 et bien d'autres, je dois reconnaître que j'aimais beaucoup Dave Filoni. Pour preuve, je réutilise l'exemple de la saison finale de Clone Wars sur laquelle il a eu carte blanche que j'ai trouvée pas bonne, je l'ai trouvée exceptionnelle. C'est à ce jour la meilleure chose que j'ai vue dans l'univers étendu après le rachat de Disney avec Andor. Certes, Dave Filoni s'est planté sur tout plein de trucs, mais avec quel cahier des charges sur les épaules. Entre un Disney complètement con, une Kathleen misandre et une DUI féroce, c'est maintenant que nous allons voir si Dave Filoni a réellement du talent, maintenant qu'il est libéré des chaînes de Kathleen Kennedy. Il n'est pas spécifiquement un bon scénariste, il est même plutôt extrêmement moyen. Ce n'est pas non plus un bon réalisateur, en revanche, il peut devenir un très bon superviseur. Ce qu'on peut tirer de toute cette leçon, c'est que Star Wars ne s'est pas effondré du jour au lendemain à cause d'un seul film ou d'une seule série. La licence est vidée progressivement de sa substance, étouffée par l'absence de vision, par des décisions managériales complètement déconnectées de la réalité, par une exploitation industrielle incapable de faire la différence entre la nostalgie et la création. Kathleen Kennedy laisse derrière elle un univers totalement mort, une véritable carrière de ruine, une fanbase divisée et une marque qui n'est plus capable de porter un événement culturel mondial comme elle avait su le faire par le passé. Le départ de cette direction marque peut-être la fin d'une ère, mais absolument pas la garantie d'une renaissance. Si nous étions dans Star Wars, peut-être aurions-nous la chance d'être dans la phase, vous savez, un nouvel espoir. Mais même ça, j'en doute très fort. Star Wars peut encore survivre sur le papier, mais redevenir ce qu'elle a été semble aujourd'hui hautement improbable. La vraie question n'est donc plus de savoir si Star Wars peut-être sauvé, mais si Disney est encore capable de comprendre ce qui faisait à l'origine la force et la singularité de cet univers. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de passer par mon lien en description et en commentaire épinglé inconi.com/plottime en utilisant mon code PLOTTIME pour bénéficier de 60% de réduction sur l'abonnement annuel d'Inconi. C'est une solution sérieuse, vérifiée de manière indépendante et vous avez 30 jours garantie satisfait ou remboursé si vous souhaitez tester sans risque. Et c'est sur ces mots qu'on se laisse, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et d'ailleurs si c'est le cas, eh bien je vous rappelle si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker la vidéo. En ce moment, l'algorithme est extrêmement capricieux sur ma chaîne. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et bien sûr, si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'ai encore tout un tas de vidéos de ce genre à vous proposer. Sur ce, on se laisse ici. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.